France Inter, le 18-20.
Demain, à Paris, une cinquantaine de chefs d'État ou de gouvernement, plus des centaines d'invités, ont rendez-vous au sommet climat One Planet Summit, 2 ans après la COP21. Mais pourquoi faire? Pour dire quoi? Est-ce qu'on est dans le pur symbole? Comment continuer en se passant des Américains? Est-ce que la balle est dans la main des acteurs privés, les Michael Bloomberg, notamment les Bill Gates, les Richard Branson, qui seront là aussi, ainsi que de multiples entreprises? De tout cela, on parle ce soir avec Nicolas Hulot, mais pas seulement. Sommes-nous prêts à renoncer à toute énergie fossile? Et cette taxe européenne sur les transactions financières européennes et le nucléaire, alors chez nous, sans compter les questions que vous avez peut-être en tête, diesel, glyphosate, Notre-Dame-des-Landes, exercice du pouvoir. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, est avec nous jusqu'à 20h et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Avant de saluer notre invité, je vous salue vous, Patrice. Bonsoir, soyez le bienvenu sur France Inter.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute.
Eh bien, la transition énergétique nécessite des investissements très lourds pour la recherche, donc très importants. Je veux savoir dans quelle mesure Nicolas Hulot peut-il lever des fonds, dans quel domaine, est-ce qu'il peut compter sur une coopération internationale pour ce sujet? Et notamment, moi j'ai une proposition à faire pour faire des économies de 35 milliards d'euros, c'est qu'il tienne ses engagements par rapport au projet CIGEO, qui donc, je répète, va coûter 35 milliards d'euros. Il s'est affiché sans équivoque, avec sa photo, avec sur son ventre Stop CIGEO, et malheureusement j'ai l'impression qu'il est en train de devenir, malheureusement, et j'espère que non, le socio-traître, l'écolo-traître, par rapport à ce problème. Donc est-ce qu'il peut lever déjà des fonds, les 35 milliards d'euros de ce scandaleux projet CIGEO, par rapport aux nécessités?
Est-ce que je peux poser une question à l'auditeur?
Mais allez-y, monsieur. D'abord, je vous salue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être au téléphone sonne. Allez-y, Nicolas Hulot.
Je vous remercie pour la formule qui conclut agréablement la journée, qui n'est pas finie, mais c'est pas grave. Je finis par avoir le cuir épais, mais je pense que ça n'est pas la peine d'employer des mots comme ça. Vous savez, quand on a consacré 30 ans de sa vie à un sujet aussi compliqué, il faut éviter de tomber, dans l'excès des formules. Mais simplement, moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets qui sont présents? Est-ce que vous avez une solution? Parce que c'est la question que je me pose moi-même.
Alors attendez, parce que juste pour que les auditeurs nous comprennent, on est en train de parler des fameux déchets de Bure, effectivement, et de ce problème qui est, vieux de combien d'années, Sandy Dauphin,
qui est là aussi. Plusieurs décennies, mais voilà, c'est le projet d'enfouissement des déchets nucléaires.
Enfin,
voilà, pour que tout le monde comprenne
une polémique
de quoi on parle.
L'auditeur. Oui, effectivement, sur le principe, chacun sait que ça n'est pas... Je veux dire, c'est contraire à l'idée que je me fais d'une société, de reporter des problèmes que nous nous sommes créés à des générations suivantes. C'est pour ça que j'ai toujours eu une grande réserve sur l'énergie nucléaire, parce que ça produit notamment des déchets à très longue durée de vie, et que, en l'état de nos technologies, et je crains malheureusement durablement, nous ne sommes pas capables de prendre en compte. Donc, la seule solution que l'on a trouvée, qui est une mauvaise solution, pour l'instant, c'est de les enfouir. Moi, si on m'offre une autre solution, donc sur le principe, je suis contre, le problème, c'est que j'ai pas d'autre solution. On peut pas les envoyer dans l'espace, on va pas le mettre au fond des océans, et personne n'en veut. Donc, dans l'attente, mais je pense que malheureusement, s'il y en avait d'une autre solution, s'il y a une alternative, je suis preneur. Oui, je suis contre philosophiquement, mais moi, j'arrive à un moment où les déchets ont été produits. Ils sont là. Donc, je vais regarder quelle est la moins mauvaise solution, mais ça sera effectivement la moins mauvaise solution.
Nicolas Hulot, il y avait un démarrage dans la question de Patrice qui parlait des investissements nécessaires, et notamment pour la recherche. Et en creux, ce qu'il vous demande, c'est jusqu'à quel point vous avez la main, vous, pour lever des fonds et pour aider à cela.
Non, mais c'est pas moi simplement qui ai la main. Il faut bien comprendre que nous sommes en train, là, d'essayer de changer d'échelle dans tous les domaines d'investissement, pour la transition écologique et notamment, évidemment, pour accompagner ou précéder cette transition écologique, pour doper la recherche. On voit bien qu'il y a besoin de changer d'échelle. C'est l'objet du sommet de Paris qui démarre demain, mais en réalité qui a déjà pris son envol aujourd'hui. L'idée, justement, vous savez, l'argent, il existe. Il existe dormant dans l'épargne, il existe dans les fonds de pension, il existe dans les fonds d'investissement, il existe simplement dans le grand plan d'investissement européen et le grand plan d'investissement français. La grande différence maintenant, c'est qu'il faut définir nos priorités. Il faut aligner, les investissements privés, les investissements publics, définir ce qui est prioritaire, cesser de mettre l'argent là où il ne faut pas. Je prends un simple exemple. Prenez les énergies fossiles aujourd'hui. On alloue sous formes diverses et variées dans le monde entier l'équivalent de 230 milliards de dollars en faveur des énergies fossiles pour accompagner une énergie qui, en termes de ce que l'on appelle externalité négative, c'est-à-dire de conséquences environnementales et sanitaires, nous coûte plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc c'est simplement ce que je veux vous dire, c'est que pas forcément de l'argent supplémentaire, c'est une meilleure allocation de l'argent. Est-ce qu'il faut mettre, par exemple, la création monétaire qui a été faite en 2015 par la Banque européenne d'investissement dans la finance spéculative, dans des fonds spéculatifs, ou est-ce qu'il faut le mettre dans la transition écologique et énergétique, et notamment dans la recherche? Donc c'est simplement d'aligner les planètes et de fixer nos priorités. La priorité en matière de recherche, c'est la santé environnement, c'est le stockage des énergies intermittentes, ce sont les énergies renouvelables.
Est-ce que la fin de l'investissement dans les énergies fossiles, parce qu'on y vient, il y a eu ce fameux appel des économistes qui a été publié très récemment, est-ce que cette fin de l'investissement, elle est possible, elle est réaliste? Est-ce qu'on peut le faire maintenant, là, demain?
On a largué les amarres des énergies fossiles. Alors, ça va être évidemment progressif parce que chaque État n'a pas la même dépendance avec les énergies fossiles. Vous avez des États qui sont 100% dépendants des énergies fossiles. Mais le glas des énergies fossiles a été sonné. Le désinvestissement carbone, c'est-à-dire le fait que les investisseurs, les fonds de pension, les fonds d'investissement ont intégré ce que l'on appelle en économie le risque carbone. Ça, c'est un effet induit, invisible de l'accord de Paris, mais en réalité, l'économie carbone est en train de basculer vers l'économie bas carbone. Et là, ce sont des flux gigantesques qui vont, je l'espère, doper et accélérer. Et l'objet, justement, de, non pas la conférence, mais du sommet de demain, c'est pas un sommet de célébration, c'est pas un sommet de promesses, c'est un sommet d'engagement, c'est un sommet d'échange des bons outils pour faire en sorte que la finance, l'économie, les projets, les contributions s'alignent dans une seule direction. Comment on réalise nos objectifs de Paris? On rentre maintenant dans l'action, on rentre dans les modalités, on entre dans les moyens pour tenir nos objectifs.
Mais quand je regarde et quand je vois le nombre de gens qui sont là, les gens qui sont invités, je citais tout à l'heure les Bill Gates, les Bloomberg, etc. Est-ce que ça veut dire au fond, Nicolas Hulot, que les entreprises sont mieux armées que les États, en fait, pour ce genre de financement-là? Est-ce que c'est eux, les Gates, les Bloomberg, etc., qui mettront l'argent à la place de Trump?
C'est un tout. C'est-à-dire qu'il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Les États peuvent servir, par exemple, en amorçant avec la commande publique. Avec la commande publique, vous pouvez créer les standards industriels. L'État peut lui-même amorcer ou aider en faisant levier. C'est-à-dire que l'État peut garantir des investissements que les investisseurs normaux ne feront pas parce que les rentabilités se font sur des échelles de temps plus longues. Donc si chacun prend sa part de responsabilité entre les acteurs économiques, ce qui est très sensible. Vous savez, ce matin, j'ai été au siège du MEDEF. C'est pas un endroit où je me rends régulièrement. 91 entreprises françaises se sont engagées à réduire leurs émissions au sein d'une alliance qui a été créée et à investir, tenez-vous bien, 60 milliards d'euros dans l'innovation et la recherche et le développement entre 2016 et 2020 et 220 milliards d'euros dans des projets concrets pour lutter contre le changement climatique. Alors certains vont me dire « Ouh, tout ça c'est du greenwashing ». L'époque du greenwashing, elle est passée. Simplement pourquoi? Parce que les acteurs économiques, ils ont enfin intégré que la prospérité économique, elle n'est pas dans les énergies fossiles, elle est dans l'efficacité énergétique, elle est dans les énergies renouvelables, elle est dans le stockage des énergies.
Et leur prospérité aussi d'ailleurs, puisque ces entreprises ne sont pas philanthropes non plus.
Mais tant mieux, je veux dire, moi je prends tout compte tenu de l'urgence de la situation, qu'on y aille par intérêt ou qu'on y aille par conviction, l'intérêt pour moi c'est que tous les flux s'alignent.
Benoît, vous avez une question au 01 45 24 7000, on vous écoute. Benoît, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour. Je pose la question parce que on continue actuellement à faire beaucoup de déchets nucléaires et on n'a pas de solution. Et on ne fait pratiquement pas d'énergie renouvelable. On parle que du carbone et on parle pas du nucléaire. Le nucléaire, c'est une vraie saloperie. Ça fait 40 ans qu'on sait qu'il n'y a pas de solution pour les déchets et personne ne fait rien. Et l'État est actionnaire. C'est l'État qui pousse au nucléaire. Voilà mes questions.
Eh bien Benoît,
est-ce qu'il y a une volonté de politique de l'arrêter?
Alors, vous allez pouvoir répondre, on la sait, la volonté politique de l'arrêter, Nicolas Hulot, tout est une question de date.
Bon, d'abord, il faut bien comprendre une chose. Il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en gestation, qui va nous permettre de définir, de planifier la transition énergétique. Dans cette transition énergétique, on doit réduire notre consommation, on a commencé à le faire. On doit développer les énergies renouvelables, je vais y revenir dans quelques instants. On doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nos objectifs sont en cours de réalisation, on doit baisser la part du nucléaire et l'on verra jusqu'où on peut aller dans la réduction de la part de la nucléaire dans la production électrique. L'objectif de 50%, contrairement à ce qui a été dit, il est évidemment toujours d'actualité. La seule grande différence avec avant, c'est que je le mets en œuvre, je le planifie, parce que ça ne se décrète pas sur un coin de table, ça se programme notamment avec les salariés.
Mais ça veut dire qu'on ne peut pas donner de date pour l'instant, on ne peut pas dire ce sera 2030, 2035.
Dans les scénarios qui sont relativement réalistes, mais qui méritent d'être commentés, amendés, critiqués, de RTE qui ont été posés sur la table, on sait bien que 2025 n'était probablement pas tenable. 2030, 2035 me semble être assez réaliste. L'important, c'est d'amorcer la décrue du nucléaire. Et puis, évidemment, si l'on commence à fermer des réacteurs nucléaires, ce que nous allons faire, pour éviter des risques d'approvisionnement, puisque dans le même temps, nous allons fermer d'ici 2022 nos centrales à charbon, et si on ne veut pas rouvrir des centrales thermiques, il va falloir développer massivement les énergies renouvelables. Pour l'instant, on n'est pas à l'échelle des enjeux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de résistance citoyenne dans nos territoires quand on veut notamment développer des éoliennes. Et les procédures sont excessivement longues. Donc on va évidemment faire en sorte de simplifier un peu ces procédures. Je vais appeler à une forme de civisme des Français, parce que si on est contre le nucléaire, contre le charbon et contre également les énergies renouvelables, on ne va pas y aller. Mais on va aussi rééquilibrer. On va doubler le nombre d'appels d'offres en matière d'énergie solaire. Parce que l'énergie solaire, c'est probablement une des plus prometteuses. C'est celle dont les coûts tombe d'une manière la plus spectaculaire et qui a le meilleur rendement énergétique. Nous allons changer d'échelle dans le développement des énergies renouvelables avec un point focus, ou en tout cas une ambition, un terme, devenir souverain sur un plan énergétique à partir des énergies renouvelables.
On va prendre la question de Pierre dans un instant, qui est tout à fait dans cette direction-là, notamment sur les panneaux solaires. Mais vous parlez d'éoliennes à l'instant. Donnons des chiffres. On en a combien en France aujourd'hui? Autour de 6000
Faut reconnaître que les objectifs en termes d'énergie renouvelable ne sont pas atteints. On en est aux alentours de 16%. C'est en deçà des objectifs qui sont fixés par la transition énergétique. Et notamment les éoliennes, en partie parce qu'en effet, il y a une résistance locale. C'est 4%, je pense, de l'électricité. Mais c'est aussi, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on n'a pas fait la place pour ces énergies renouvelables dans notre mix?
Non, mais pour l'instant, je vous l'accorde. Et c'est bien pour ça qu'on va changer d'échelle. C'est bien pour ça que je suis en train de travailler avec d'autres ministères pour, faire en sorte à la fois de simplifier les procédures, de faire en sorte que l'on multiplie les appels d'offres. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez en Europe maintenant certains appels d'offres pour des éoliennes offshore qui se font sans subvention de l'État parce que le coût de ces productions d'énergie sont en train de tomber.
Zéro éoliennes offshore en France, quand même, alors qu'on a la plus belle
façade. Il y avait une filière française en plus qui s'était lancée, qui avait tenté de...
Il faut bien comprendre que je réceptionne une situation où entre le moment où on fait un appel d'offres et le moment où on met le premier mât, il peut se passer entre 10 et 15 ans. Avec cette stupidité supplémentaire, c'est qu'au moment où on va pouvoir mettre le premier mât, le modèle sur lequel on a fait l'appel d'offres est totalement obsolète. Si on veut un modèle plus efficient, il faut repartir à zéro. C'est tout ce que nous sommes en train de changer dans la loi de simplification qui est en ce moment à l'étude.
Tiens, monsieur Hélio, écoutez cette question de Jean-Louis sur franceinter.fr. 187 éoliennes dans un rayon de 15 km près de chez moi. Est-ce que monsieur Hélio accepterait de vivre dans un tel environnement?
Écoutez, je comprends ça, mais est-ce que je pourrais retourner la question? On met quoi? Une centrale à charbon, une centrale nucléaire? Il y a un moment ou un autre, il faut bien qu'on s'ouvre à quelque chose. J'entends ça, c'est très subjectif. Évidemment, certains trouvent ça laid, d'autres trouvent ça plutôt beau. Après, d'autres me parlent de nuances sonores. Non, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut qu'on partage une vision. Et puis, il faut intéresser les citoyens. C'est-à-dire que s'ils sont à proximité de certaines fermes solaires ou de certaines fermes d'éoliennes, peut-être qu'il faut en tirer un bénéfice. Peut-être qu'il faut qu'on leur propose d'être actionnaires dans des coopératives, comme ça se fait dans certains territoires en France.
Pierre, vous avez une suggestion, vous, à faire à Nicolas Hulot. On vous écoute. Soyez le bienvenu, Pierre. Pierre, bonsoir.
Pierre. Oui, bonsoir.
Allez-y, Pierre.
Oui, bonsoir. Voilà ma suggestion, c'était simplement de faire une loi qui imposerait la construction, enfin l'implantation de panneaux solaires sur tous les immeubles en construction, les immeubles d'habitation, les immeubles de bureaux, les immeubles administratifs, d'obliger les constructeurs à mettre des panneaux solaires, ce qui augmenterait pas, à mon avis, beaucoup le coût de la construction et qui bénéficierait de toute façon aux occupants et qui diminuerait l'empreinte carbone je pense que ça serait une solution pas chère, et là ça serait une obligation, donc ça serait fait d'office.
Merci beaucoup pour votre question,
tout
Pierre.
Tout ça, c'est empreint de bon sens. Alors on va regarder dans le détail. Nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle un Green New Deal, justement pour doper cette filière. Moi, je crois beaucoup dans le solaire. D'abord parce qu'effectivement, ça offre moins de résistance citoyenne, parce que c'est dans les énergies renouvelables celles dont le prix chute le plus rapidement possible. D'ailleurs, je note que d'ores et déjà aujourd'hui, avant le sommet de demain matin, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Et notamment, une annonce qui a été faite par notre principal opérateur qui est EDF, dont je me réjouis pour une fois, qu'ils prennent leur part dans la transition énergétique, notamment en annonçant d'ici 2035, c'est-à-dire entre 2025 et 2035, 30 gigawatts de solaire, ce qui veut dire qu'EDF va devenir maintenant un acteur majeur dans les énergies renouvelables. Ils l'étaient à l'étranger, ils le seront sur notre territoire. Mais il y a d'autres acteurs qui vont évidemment bénéficier au développement des énergies renouvelables et dans le domaine du solaire. Mais nous, l'État, on doit leur faciliter l'installation. Donc, est-ce qu'il faut rendre obligatoire? Est-ce qu'il faut créer des normes? Est-ce qu'il faut changer la réglementation? Quand, dans les années 60 ou 70, on a décidé de se lancer à fond dans le nucléaire, on ne s'est pas beaucoup embarrassé des procédures. Je ne dis pas qu'il faut reproduire la même chose. Évidemment, il faut laisser la possibilité à certaines et à certains de faire des recours et de faire en sorte de ne pas baisser la garde sur les normes environnementales. Mais il y a un moment ou un autre, il faut que les Français, ensemble, nous décidions de quel modèle énergétique nous voulons avoir. Est-ce que nous voulons être autonomes sur un plan énergétique à partir de sources d'énergie qui, à terme, sont gratuites? Avoir une indépendance énergétique, c'est avoir une indépendance diplomatique.
Gwenaël nous appelle au 01 45 24 7000. Gwenaël, bonsoir, soyez le bienvenu.
Bonsoir. Monsieur Hulot, donc dans le cadre de votre plan climat, vous avez décidé de sortir du charbon en 2022. Vous savez que ces centrales vont entraîner la perte de 5000 emplois sur les 4 centrales françaises et vont mettre en difficulté les régions. EDF, que vous citez tout à l'heure, fait actuellement des essais sur la centrale de Cordemay, soutenue également par la CGT pour réduire cet impact CO2 des centrales au minimum, voire même négatif. Et tout ça en créant de l'emploi sur les territoires. La vraie question, c'est, est-ce que vous mettez les finances à hauteur des enjeux? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à soutenir de tels projets qui créent de l'activité sur les territoires et qui rendent pleinement la transition énergétique? Et 2022, c'est demain pour l'industriel. Est-ce que vous êtes prêt à rallonger un peu cette date à partir du moment où le processus de réduction des CO2 est engagé sur les centrales?
Merci beaucoup pour votre question, Gwenaël. D'abord, la plus simple, 2022, est-ce qu'on reste à cette date,
oui,
Nicolas Hulot?
On reste à cette date. Vous voyez à travers cette... interlocuteur dont je comprends l'inquiétude et que je n'ignore pas, et ça n'est pas simplement une posture au micro de France Inter. Mais il y a toujours de bonnes raisons de ne pas faire, et notamment des raisons sociales. C'est la raison pour laquelle, au niveau mondial, on se retrouve dans cette situation et que les choses n'avancent pas. Alors, je ne suis pas sûr que le chiffre qui a été donné corresponde à la réalité, mais il y a des emplois qui sont évidemment concernés. Pour la transition énergétique et écologique qui est la nôtre, qui va avoir comme conséquence la fermeture probablement d'un certain nombre de réacteurs nucléaires, probablement et même certainement des centrales à charbon. Nous avons engagé ce que l'on appelle une concertation avec des contrats de transition écologique, territoire par territoire, filière par filière, pour qu'il y ait zéro perdant. Et notamment, l'un de mes secrétaires d'État, Sébastien Lecornu, est, je dirais, à 100%, pour identifier les salariés, les filières, les territoires qui seront concernés par cette conversion. Mais ce qu'il faut bien comprendre, il va y avoir des emplois affectés, mais il va y avoir tellement, beaucoup plus d'emplois qui vont être créés. Ce sont des centaines de milliers d'emplois qui vont être créés avec le développement des énergies renouvelables, avec les transports doux, avec l'efficacité énergétique, avec l'économie circulaire, avec l'agroécologie. Si nous n'arrivons pas à faire en sorte qu'il y ait zéro impact social sur les emplois qui vont amener évidemment à se convertir par rapport aux centaines de millions de gisements d'emplois dont la transition écologique et énergétique va être bénéficiaire, ça veut dire très sincèrement que notre intelligence n'aura pas été à la hauteur.
Et là où Gwenaël a raison, c'est que 2022, c'est demain. Est-ce que ça veut dire qu'on commence déjà à discuter, est-ce que vous commencez déjà, vous dans votre ministère, à discuter autour de ces endroits-là? C'est pareil d'ailleurs pour les fermetures nucléaires, c'est exactement le même genre de principe.
C'est la grande différence, c'est que c'est facile de dire on va fermer des réacteurs, c'est facile de dire on ferme des centrales et puis de se fermer à double tour dans son bureau, c'est que vous ne prenez pas en compte les impacts sociaux et les difficultés pour les salariés. Donc territoire, encore une fois par territoire, nous allons appréhender les conséquences, nous allons travailler avec les partenaires sociaux et on va faire en sorte que cette transition soit socialement acceptable et pas brutale. La brutalité, je veux dire, même si on est dans une urgence, si tant est que le mot ait encore un sens, elle n'est pas compatible avec la transition écologique et, je le rappelle, solidaire, puisque je n'ai pas greffé ce mot simplement pour faire un effet d'annonce.
Oui, absolument. Il y a beaucoup de gens qui soulèvent d'ailleurs dans votre question, dans leur question, l'ajout de solidaire, effectivement, à votre ministère.
Tiens. Mais je voudrais quand même que chacun comprenne. Je ne fais pas ça pour ennuyer qui que ce soit. Je veux bien que chacun fasse valoir sa propre situation. Je le comprends. Mais j'essaie simplement d'inscrire cette transition dans l'enjeu du 21e siècle. Je crois qu'on n'a pas tous collectivement mesuré ce qui nous pend au nez, ce qui nous arrive déjà chaque matin, ce qui se passe en ce moment en Californie, ce qui s'est passé à Saint-Martin, ce qui se passe y compris sur notre territoire. Donc il y a un moment ou un autre, il faut aussi que chacun, au lieu d'apporter sur la table les problèmes, nous aide à apporter les solutions. L'interlocuteur tout à l'heure qui nous a appelé par téléphone en me traitant de traître, les déchets, il en fait quoi? C'est bien de pointer le doigt sur ce qui ne va pas, mais si chacun n'apporte pas sa contribution, Kennedy disait, ne demandez pas à l'État ce qu'il peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. Et moi, je dis à chacun, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la transition écologique et climatique, parce que ça n'est pas simplement ma responsabilité, c'est aussi votre responsabilité. Vous avez des enfants, et les enfants, on ne peut pas les balancer dans un monde chaotique.
Tiens, une question très pratique sur franceinter.fr. Je possède un livret de développement durable dans une banque. En l'occurrence, il s'agit du Crédit Agricole, rémunéré à même pas 1%. Pourquoi ne pas récompenser les gens en rémunérant plus leur livret de développement durable ?
Alors, ça fait partie justement des propositions et même des engagements qui vont être faits demain. L'épargne des Français, mais l'épargne en général, voilà de l'argent qui peut être utilement utilisé dans la transition énergétique et climatique. Encore faut-il s'assurer effectivement que sur ce livret, cet argent soit bien affecté à la transition écologique, que chaque euro qui soit déposé par les citoyens français, soit fléché. Donc on prendra un certain nombre de dispositions. J'en ai parlé avec Bruno Le Maire dans un déjeuner à midi.
Tiens, Sylvain veut changer complètement de sujet. Sylvain, bonsoir, on vous écoute, allez-y.
Oui, merci. Donc voilà, moi je voulais poser une question à Nicolas Hulot. Dans l'éventuel abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, j'espère que ça sera abandonné. Par rapport à la ZAD, voilà, on entend souvent dans les médias et dans la bouche de certains politiciens que c'est une zone de non-droit, qu'il y a de la violence, etc. Moi, ce que je peux constater par le biais des nouvelles que j'ai par la CIPA sur Notre-Dame-des-Landes, on voit qu'il y a énormément de choses bien qui se passent sur la ZAD. Il y a un autre modèle qui est en train de se construire et il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de choses qui se font au niveau de l'élevage, de l'agriculture, avec des petites exploitations qui sont remises à fonctionner.
On comprend, Sylvain, que vous voulez...
C'est dommage de parler d'évacuation et de parler de zone de non-droit sur cette ZAD. Je voudrais savoir ce qu'il en pense.
Merci beaucoup pour votre question, Sylvain. Nicolas Hulot, on va revenir sur Notre-Dame-des-Landes. Mais là, effectivement, dans l'hypothèse où le projet ne se fait pas, qu'est-ce qu'on fait de la ZAD ?
Bon, c'est une hypothèse qui n'engage que vous, pour une bonne raison, c'est que n'ayant pas reçu le rapport des médiateurs, le Premier ministre et le Président ne sont pas encore en situation de prendre une décision, puisque normalement ce rapport devrait éclairer le gouvernement pour voir si ce projet mérite d'être confirmé ou s'il y a une alternative qui mérite d'être étudiée.
Au passage, ce que ça veut dire, pardon de vous interrompre, c'est que ce que diront les médiateurs...
C'est pas eux qui vont dire ce qu'il faut faire.
Demain ou après-demain, c'est pas oui ou non,
on est d'accord. Non, c'est pas du tout leur rôle. Leur rôle, c'est de donner un éclairage au gouvernement pour pouvoir valider une option ou une autre. Parce qu'en réalité, jusqu'à présent, il y a une option qui a été largement documentée, c'est l'option de Notre-Dame-des-Landes. Il y a une option qui a été moins documentée, c'est l'option de Nantes-Atlantique. Donc c'est à l'aune de ces informations et du travail de ces trois experts, travail d'ailleurs considérable que je tiens à saluer ici, que le gouvernement pourra, une fois avoir étudié l'ensemble des parties, prendre sa décision. Si d'avenir... Notre-Dame. D'abord, pour répondre à votre auditeur, je crois que dans ce dossier, il est inutile d'abord de faire des amalgames et de stigmatiser qui que ce soit. C'est un dossier qui est tendu. Pourquoi il est tendu ? Parce que chacun dans son point de vue, avec sa grille de lecture, quelque part a raison. Voilà. C'est un cas d'école de problématiques qui convergent sur mon bureau presque chaque matin, où il n'y a pas de mauvaise foi. Bon. Donc, il ne sert à rien dans ce domaine comme dans d'autres de, comment dire, d'employer des mots qui dépassent la pensée et qui radicalisent les choses. Ce que je souhaite, si d'avenir Notre-Dame-des-Landes ne se faisait pas, mais encore une fois, à ce stade, évidemment que je n'en sais rien, c'est que les choses puissent se faire d'une manière apaisée, pacifique, et qu'il puisse y avoir un beau projet, un magnifique projet, peut-être tourné justement sur l'agriculture de demain, sur la permaculture, sur l'agroécologie, un espace pionnier. Mais enfin, là, je me prends à rêver. On n'en est pas là.
Ça veut dire que vous préféreriez, là, je vous entends en creux, vous préféreriez qu'on améliore, qu'on agrandisse Nantes Atlantique.
Non, je dis simplement, si Notre-Dame-des-Landes ne devait pas se faire, au moins que ce territoire est un projet dont la région, les acteurs, les gens qui vivent autour, les agriculteurs, les opposants puissent être fiers. Mais voilà, en tout cas, je ne souhaite pas de mettre de l'huile sur le feu. Nous sommes dans une situation en France tendue pour plein de raisons. Arrêtons de nous jeter des anathèmes. Je dis ça pour l'auditeur tout à l'heure qui me traite de traître. Je veux dire, la violence des mots, pardon de dire, je ne suis pas susceptible, vous inquiétez pas. La violence des mots précède la violence des actes. Et mon rôle à moi, c'est d'apaiser. Vous savez, j'ai conscience que nous sommes sur un volcan en feu au niveau de la planète. Donc essayons au moins, dans des problématiques qui sont compliquées, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de mauvaise foi, simplement de regarder la raison, la rationalité des arguments, mais ne jetons pas des anathèmes comme cela.
Mais à un moment, Notre-Dame-des-Landes, ça a été votre ligne rouge. On a bien compris que c'était plus une ligne rouge, je pars, je reste, en fonction de Notre-Dame-des-Landes.
Non, la ligne rouge, pardon, elle a été inventée par les médias.
Très bien.
Mais je n'ai jamais dit, voilà, j'ai simplement dit que j'aviserais en temps utile, mais comme je prends les choses jour après jour, vous savez, pour l'instant, mon agenda, c'est demain, le sommet du 12 décembre, et puis dans la foulée, Notre-Dame arrivera et on verra.
Mais vous avez une préférence, Nicolas Hulot ?
Mais elle est connue. Elle est connue de longue date. Je n'ai pas changé comme je n'ai pas changé sur Bure. La seule chose qui a changé, c'est que je suis aux responsabilités. Donc, c'est un mot qui vaut dire quelque chose. Quand on est aux responsabilités, on ne fait pas des caprices tous les matins et on ne saute pas sur la table en disant « si je n'ai pas ceci, je m'en vais ». Ce n'est pas comme ça qu'on exerce, je pense, une responsabilité. Ça ne change pas mes convictions et mes opinions.
Donc, ça veut dire que s'il y a un Notre-Dame-des-Landes, vous pirez au Notre-Dame-des-Landes et puis vous aiderez à faire en sorte que ce Notre-Dame-des-Landes existe.
On verra en temps utile. Votre question induirait quelque part que je fasse pression sur le Premier ministre et le Président de la République. Ça n'est pas ma conception des choses. Ils connaissent mon opinion. C'est leur liberté de choix à l'aune de l'éclairage de ce rapport. Et j'attendrai que la décision soit prise pour en faire un commentaire.
André, je suis pas très sûr. Bonsoir.
Bonsoir.
Andrés.
Oui, c'est ça, Andrés.
Andrés, pardon, on vous écoute, monsieur, allez-y.
Oui, déjà, je voudrais remercier France Inter de permettre à un citoyen d'une république de pouvoir interpeller un ministre, ce qui prouve l'évidence d'une transparence.
Voilà. Allez, citoyen Andrés, on vous écoute.
Merci. Alors, voilà, monsieur le ministre. D'abord, monsieur Hulot, sachez que je suis conscient de la charge qui vous incombe. Au moins, vous êtes à l'intérieur. Alors, peu importe les critiques, moi, vous essayez d'agir à l'intérieur. Alors, maintenant, moi, ce que je voudrais dire d'un point de vue humain, alors, si l'humanité a donné la notion de crime contre l'humanité, effectivement, actuellement, l'humanité commet un crime contre la création. Et ça, on en est tous conscients. Moi, ma question était de savoir comment réagissez-vous face à la puissance des lobbies qui peuvent remettre en question des évidences écologiques concernant, admettons, le glyphosate et d'une. Deuxièmement, ma deuxième question, votre position en tant que ministre vous permettrait-elle pas plus tard d'avoir cette crédibilité pour un futur présidentiable et vraiment mettre les choses sur la table, car effectivement, face à l'évidence d'une catastrophe mondiale, vous êtes peut-être un étendard, et si vous êtes éligible un jour,
Andrés,
voilà. Allez-y. Merci de tenir l'écologie, et je pense que vous pouvez peut-être donner cet espoir pour mettre en avant l'évidence qu'il nous faut être humain et faire partie d'un écosystème à part entière, ne pas être dominateur et détruire ce système.
Pardon Andrés, pardon, je voudrais pas interrompre le panégyrique de Nicolas Hulot. On a compris votre question. Tiens, allons directement sur celle-là. Nicolas Hulot, ça vous plaît la politique? Parce qu'il est en train de vous imaginer plus haut. Je vous ai entendu dire que ministre c'était chiant du soir au matin et que le plaisir, j'ai pas le temps d'en avoir. Vous disiez oui, le plaisir, j'ai pas le temps d'en avoir.
Je veux pas être méprisant par rapport à la responsabilité. Ce que je voulais dire, c'est que ça n'a ni de satisfaction que si on a le sentiment de faire avancer les choses. C'est rude, c'est prenant. C'est intense, c'est épuisant, mais je ne suis pas là pour me plaindre. Il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent et qui ont le même sentiment de fatigue à l'exercice de leur profession. Je dis, ça n'a d'intérêt si on est là pour être utile. Voilà, si on est là pour briller, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc simplement, ce que j'ai dit, c'est que ça sera, et au risque de décevoir votre auditeur, ma seule incursion politique. Et ma seule ambition, c'est de faire en sorte dans 3-4 domaines, santé, environnement, transition énergétique, économie sociale et solidaire, d'engager des dynamiques irréversibles. Quant au poids des lobbies, évidemment que la transition écologique, elle est au carrefour de tant de conflits d'intérêts, de tant d'injonctions contradictoires. Parce que changer le modèle agricole, évidemment, ça heurte des conservatismes, ça heurte des intérêts. Passer du monde des énergies fossiles au monde des énergies renouvelables, eh bien évidemment, ça déplace, je dirais, l'économie sur d'autres acteurs. Donc évidemment qu'il y a des réticences, évidemment qu'il y a des puissances de feu considérables pour troubler les esprits, pour semer le doute. Regardez simplement ce qui s'est passé sur le climat pendant des années. Que de temps perdu avec les climato-sceptiques pour qu'enfin la communauté internationale acte l'évidence. Il en est de même sur tous les insecticides, les pesticides. Il faudra probablement une liste funeste pour qu'un jour on se rende compte que l'utilisation de tous ces produits est probablement à l'origine de beaucoup de pathologies. Voilà, il faut lutter effectivement contre un mur de scepticisme, de doute en permanence. Mais le meilleur allié, c'est la créativité et l'inventivité, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, on peut faire la démonstration qu'on peut faire autrement.
Mais vous disiez tout à l'heure, vous parlez de votre utilité. Vous en avez quand même avalé. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir avalé un certain nombre de couleuvres?
Non,
quand
même, vous voyez, ça c'est du mimétisme parisien. Pardon, n'y voyez aucun mépris.
Non, je vous en prie.
Mais chacun répète à escient que j'aurais avalé des couleuvres. Et puis quand je dis quelles couleuvres, on n'est pas capable de me répondre.
Ben, glyphosate, par exemple, c'était la question d'Andrés.
J'ai avalé une couleuvre sur glyphosate?
Ben, vous disiez 3 ans, ce sera 5 ans. Alors certes, ce ne sera pas 10 ans.
Excusez-moi, mais franchement, je vous demande un tout petit peu de remettre les choses en perspective. Est-ce que j'ai avalé une couleuvre? Mais qu'est-ce qui s'était passé? La séquence, l'Europe s'apprêtait à réautoriser sans autre prescription pour 10 ou 15 ans l'utilisation du glyphosate. J'interviens dans le débat. Non seulement on ne réautorise pas pour 10 ou 15 ans, mais pour finir l'atterrissage au niveau européen, c'est 5 ans, assorti quand même d'un certain nombre de prescriptions pour évaluer les alternatives. C'est déjà plus que un succès. Et dans le même temps, unilatéralement, la France se fixe comme objectif d'en sortir pour 3 ans. C'est ça une couleuvre pour vous? Mais c'est même pas un petit orvé, parce que, excusez-moi de vous le dire, mais je considère que c'est un succès. Les 50% du nucléaire, est-ce que c'est une couleuvre? Non, la grande différence, c'est que nous, on va le faire. Elle n'a pas été mise en œuvre. Donc on est en train de planifier la fermeture des réacteurs. Quand aujourd'hui, une entreprise comme EDF s'engage à développer 30 gigawatts dans le solaire, c'est pas un succès qui est probablement dû justement aussi à mon intervention auprès de cet opérateur. Alors je dis ça, je suis pas en train de dire que
tout va bien dans le meilleur des mondes.
Que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais un peu d'objectivité ne fait pas de mal, parce que sinon ça décourage tout le monde.
Mais typiquement sur le glyphosate par exemple, je ne sais pas si on arrivera nous à être à 3 ans et pas 5 ans comme le dit l'Europe pour l'instant, mais pour qu'on puisse être à 3 ans, ça veut dire qu'il faut identifier réellement quelles sont les alternatives et il faut les mettre sur les marchés. Est-ce qu'on est prêt à faire ça tout simplement? Est-ce qu'on peut le faire demain?
Mais demain matin, non. Vous voyez, entre Europe Écologie qui m'enjoignait d'interdire le glyphosate demain matin, au 1er janvier 2018, et entre réautoriser pour 5 ans ou pour 10 ans, il y a une alternative médiane, beaucoup plus raisonnable. Regardez l'INRA, qui a fait un communiqué la semaine dernière pour dire que les alternatives au glyphosate existent. Maintenant, elles existent. Il va falloir regarder avec le monde agricole ces alternatives. est-ce qu'elles sont reproductibles dans tous les modes de production? On va regarder ça. Vous savez, ça peut être 2 ans et demi, ça peut être 3 ans, ça peut être 3 ans et demi. Ce qui est important, c'est de se mettre dans une planification de la sortie du glyphosate et d'autres substances derrière, et notamment à l'issue des états généraux de l'alimentation, vous verrez aussi qu'il y aura un programme pour sortir d'un certain nombre d'insecticides et de pesticides.
Safo, vous êtes la dernière, il nous reste à peu près 2 minutes 30, promettez-moi d'être courte.
Je vais tâcher, je vous remercie beaucoup, et je salue notre ministre que je trouve très courageux. Nous sommes devant des situations d'urgence, et je trouve que dans ces situations d'urgence, il est vraiment inadmissible de voir un pays comme les États-Unis revenir sur un engagement pris par un autre politique avant lui. Alors, il existe des cours internationales pour condamner des criminels de guerre. Est-ce qu'il n'existe pas des moyens vraiment objectifs et rapides pour empêcher des élus nouvellement nommés, qu'ils soient de droite, de gauche, écolo, pas écolo, ça n'a pas d'importance. Des engagements aussi importants que ceux qui ont été pris il y a 2 ans, il faut pouvoir y aller. Et je crois vraiment que M. Trump, il faut le dégager. À ce niveau-là, il faut que les États-Unis, que les citoyens américains, que les citoyens européens, que les citoyens du monde qui ont envie de préserver la vie de leurs enfants et leurs petits-enfants, il faut qu'on se bouge. Donc il faut faire intervenir la loi.
Merci beaucoup pour votre question, Safo. Alors on ne peut rien, nous, pour le président américain, évidemment, mais c'est vrai que comment est-ce qu'on peut détricoter ce qui a été signé par le précédent? Est-ce qu'il n'y a pas un recours là-dessous à trouver?
Malheureusement, non. C'était un peu la faiblesse des accords de Paris, c'est qu'ils n'étaient pas juridiquement contraignants. C'est pour ça que l'initiative qui a été promue par Laurent Fabius d'un pacte mondial pour l'environnement qui serait une sorte de bouclier juridique pour rendre contraignant l'ensemble des textes environnementaux qui existent d'une manière disséminée sur la planète est une initiative évidemment que je soutiens. Mais simplement ce que je voudrais dire à votre auditrice, le droit, la justice, l'histoire ne sont jamais amnésiques. L'avenir, comment dire, se rappellera que nous avions tous les éléments pour agir. Le doute n'est plus un argument pour ne pas faire, et la culpabilité de chacun, la responsabilité de chacun sera gravée dans les livres d'histoire.
Mais alors justement, j'en reviens, ce sera la dernière question, à ce qu'on disait au début, est-ce que les entreprises américaines ont réellement la capacité à compenser cela, notamment sur le fameux fonds vert, parce que le problème des États-Unis, les entreprises, elles sont là, les États travaillent, mais le fonds vert...
Compenser au dollar près le retrait de l'administration américaine, probablement pas, en tout cas en l'état. Amortir le choc de la position de l'administration américaine, oui. Les grands acteurs économiques, les États, les villes, qui seront d'ailleurs pour certaines et pour certains présents demain à Paris, ça crée quelque part un sursaut. Vous savez, quand on voit qu'une entreprise comme Exxon a décidé de mettre justement dans son logiciel ce que l'on appelle le risque carbone et a enjoint le président des États-Unis à revenir dans l'accord de Paris, c'est vous dire que là-bas, les acteurs économiques, les acteurs de la finance ont compris que le monde des énergies fossiles, c'était le monde du passé, que le monde des énergies renouvelables, c'est le monde de l'avenir.
Merci beaucoup Nicolas Hulot, merci de ce passage dans le téléphone sonne. Merci à vous qui avez posé beaucoup, beaucoup de questions ce soir. Nous, on se retrouve demain.